Francis Cabrel, le troubadour du XXe siècle et du XXIe siècle aussi d'ailleurs, chantait « Tout le monde y pense, les hommes, les anges, les vautours ». Je ne sais pas pourquoi les vautours, mais à quoi faisait référence Francis Cabrel ? À quoi tout le monde pense ? Eh bien, tout le monde pense à l'amour. Et Pierre, l'apôtre, le disciple remuant de Jésus, quand il écrit cette lettre aux chrétiens d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, en l'an 64 de notre ère, y pense aussi à l'amour. Et parce que nous suivons cette lettre depuis quelque temps, paragraphe après paragraphe dans les prédications, on en est à la quatrième sur 1 Pierre, eh bien, Pierre nous invite ce matin à y penser aussi, à l'amour. Dans ce paragraphe, donc, qui commence au verset 22 du chapitre 1 de la première de Pierre, c'est un peu compliqué, hein, 1 Pierre 1, 22, jusqu'à 1 Pierre 2, verset 3. Mais il nous le dit, aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et il n'est pas le seul à lancer cet appel à l'amour, un petit survol biblique comme on faisait à la faculté, je m'en rappelle. Un appel constant dans la Bible, Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ?»« Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et on peut citer Paul aussi dans 1 Corinthiens 13, qu'on lit souvent pour les mariages, mais il est question d'amour les uns pour les autres. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Et puis, Jean, dans sa première lettre, 1 Jean 4, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et donc, le thème de l'amour est un incontournable de la Bible. On ne peut pas lire la Bible sans le voir. Et il est tellement évident, ce thème de l'amour, que bien souvent, on ne s'y arrête plus. Et pourtant, l'appel est constant et répété. Aimez-vous les uns les autres. Et cela dans toutes les situations, même dans la persécution, parce que nous sommes à l'époque où Pierre écrit cette lettre aux chrétiens d'Asie mineure, nous sommes dans une époque de persécution pas nette, mais insidieuse, latente, pas de torture ni d'arrestation, pas encore en tout cas, mais des vexations, des frustrations, des mises à l'écart. On le voit dans la salutation, 1 Pierre 1, versets 1 et 2, à tous les résidents temporaires qui sont dispersés. Résidents temporaires, juste tolérés dans leur propre pays, dispersés, négligés par l'Empire, des difficultés à vivre en tant que chrétien. Et d'où l'importance de cet appel, aimez-vous les uns les autres. Plus la pression extérieure est importante, plus l'amour intérieur doit être important. Et il est intéressant de voir que cet appel à l'amour est un appel à un amour particulier, à un amour fraternel. Et j'ai mis les Jackson 5 là, parce qu'ils sont tous frères. C'est l'amour Philadelphia, qui n'a rien à voir avec le fromage, ni à voir avec la chanson de Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, mais tout à voir avec l'amour fraternel. L'amour entre les frères et les sœurs. Et on est arrivé là, par hasard, avec un grand D, comme le disait Matthieu tout à l'heure, à ce paragraphe-là. Et je vous rappelle, donc, 1 Pierre 1, 1 à 2, lettre de Pierre, l'apôtre à tous les résidents temporaires. Ça, c'était la salutation. Le deuxième, 1 Pierre 1, 3 à 12, on a vu une série d'encouragements, une salve d'encouragements, parce que et nous avons à notre tour une espérance vivante qui nous fait vivre. Nous avons un héritage qui nous attend dans les cieux, incorruptible, que personne, rien ni personne ne pourrait nous enlever. Et nous avons C'est vrai, quelques épreuves, mais ces épreuves sont limitées dans le temps et quelque part, Dieu, d'une façon assez mystérieuse, les utilise pour faire grandir notre foi. Et puis, la dernière fois, Pierre nous avait adressé un appel à la sainteté. Et maintenant, il nous parle d'amour fraternel. Et cette troisième section est bien à sa place parce que, après avoir parlé de cette gloire dans le ciel, de ce trésor dans le ciel, et aussi de cette recherche de la sainteté devant Dieu, maintenant, et maintenant seulement, maintenant nécessairement, mais maintenant seulement, on va parler de la relation avec les autres, avec les frères et les sœurs. Il y a une sorte de méthodologie spirituelle à respecter, qui veut que la première priorité, c'est un peu redondant, mais c'est voulu, pour un chrétien, c'est d'abord de regarder à Dieu, à ce qu'il fait, à entretenir une relation avec Dieu, à être juste devant lui, et cela avant d'avoir un souci pour son frère, pour ses amis, pour son épouse, pour le monde. Il est le souci d'être juste devant Dieu, droit devant lui, au clair avec lui. Et la deuxième priorité serait d'aimer les autres, qui est d'une importance capitale, mais dans le temps et dans l'espace spirituel, qui serait deuxième. Une méthodologie présente dans notre texte au verset 22. « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer. Vous avez déjà été purifié, vous êtes pur devant Dieu. Vous avez reçu le pardon de Dieu pour les péchés commis devant lui. Par votre conversion, comme Mathieu et Mélanie nous l'ont rappelé, vous avez dit oui à Jésus-Christ. Et puis plus loin, vous avez été régénéré, né à une vie nouvelle. » Et ça se réfère au Saint-Esprit. « Purifié. » Régénéré, bref, maintenant vous êtes au clair devant Dieu, pur, spirituellement parlant, et maintenant les autres. Maintenant l'amour fraternel. Une méthodologie spirituelle qu'on voit aussi dans les 10 commandements. Les 4 premiers ont un rapport avec notre relation avec Dieu, les 6 autres avec les autres. Mais les 4 premiers, c'est la relation avec Dieu. Les 6 autres, c'est la relation avec les autres. Et Jésus, quand il résume la loi, nous fait part aussi de cette méthodologie spirituelle. Lisons ensemble. Voici le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ce sont 2 commandements, mais Jésus met une sorte de méthodologie spirituelle. Et Jean le dit aussi dans son style lumineux, « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous serons en communion les uns avec les autres. » Alors, si nous vivons dans cette lumière, la lumière de Dieu, alors, oui, nous pourrons, nous le ferons, effectivement, nous serons en communion les uns avec les autres. Et j'insiste un petit peu parce qu'il me semble que c'est important. Quelle est la clé d'une bonne relation avec les autres? Quelle est la clé d'une communion fraternelle intense dans l'Église? Est-ce que c'est les affinités? Est-ce que c'est le bon goût du café avant le culte? Est-ce que c'est les bons chants, une bonne musique, une bonne liturgie, même une vision d'église commune? Qu'est-ce qui fonde les bonnes relations fraternelles? Eh bien, c'est ma propre marche dans la lumière avec le Seigneur. C'est ma propre communion avec le Seigneur. C'est ma sainteté, comme on l'a dit la dernière fois. La mienne est celle de l'autre, mais je suis responsable de la mienne, de marcher dans la lumière de Dieu. Le pont vers la fraternité, c'est ma marche avec Dieu en pleine lumière. Et nous devons tous comprendre cette méthodologie spirituelle, parce que nous faisons souvent dépendre nos relations du nombre de points communs que nous avons avec l'autre, de nos affinités, de nos personnalités qui pourraient se compléter, des circonstances. Cela compte. Mais si peu. L'amour fraternel dépend avant tout de notre marche dans la lumière, celle de Dieu. Parlons un petit peu de la qualité de cet amour fraternel. Vers quoi devons-nous tendre ? Et dans le texte, nous avons trois adjectifs ou trois adverbes. Vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ou des expressions adverbiales. D'abord, qui vient au petit trot, voilà, la sincèrement, la sincérité. Littéralement, sans hypocrisie. Un hypocrites, en grec, avec le a privatif, sans faux semblant, sans feinte, sans calcul. Et en grec, quand on prononce le mot hypocrite, on pense au théâtre, puisque le comédien à l'époque s'appelait l'hypocrites, l'hypocrite, celui qui joue la comédie. Et donc un amour sans hypocrisie, ce serait un amour fraternel qui se joue sans comédie, qui se manifeste dans des paroles et des gestes, et qui correspondent à un réel désir d'aimer, une réelle volonté d'aimer. Pas un jeu, pas un calcul, pas une manipulation, pas une séduction. Il faut donc que derrière les gestes et les paroles, il y ait une réelle volonté d'aimer. Et je dis bien volonté, et non sentiment, car les deux autres termes, les deux autres adverbes, font appel à cette notion de volonté, et en particulier ce « de tout votre cœur » qui est dans le verset au-dessus. Avec ce terme, on a l'habitude d'y voir le siège des sentiments, et on le répète ici assez souvent, « j'aime de tout mon cœur », c'est-à-dire un élan irrésistible, incontrôlable. Oh. Mais dans la Bible, le cœur, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, le cœur, c'est le siège de la raison et de la volonté. Et donc cet amour du cœur, ce n'est pas vraiment l'amour des feux de l'amour. C'est l'amour qui vient du centre de la personne, un amour, ce centre qui oriente toute la volonté de la personne et sa pensée. Ça, c'est aimer du cœur. Aimer de tout son cœur, c'est aimer en y mettant du sien. C'est aimer en voulant aimer. Et pour cela, et c'est pour cela que le critère pour l'hypocrisie, ce ne sont pas les sentiments. Pour beaucoup, ne pas être hypocrite, c'est de pouvoir dire quand on n'aime pas quelqu'un, de le lui dire. Je t'aime pas, toi. Et je te le dis franchement. Et là, je suis pas hypocrite. Et là, on pense avoir atteint le summum de la transparence et de la franchise. Mais ce n'est pas le cas. Être authentique, selon Dieu, ce n'est pas dire ce que l'on pense, mais penser ce que l'on dit. On en parlait avec les jeunes pasteurs de l'Union, et en particulier Florence Van Colly, pasteur à Toulouse, qui nous disait « c'est comme Dieu ». Dieu est vrai, mais il ne nous dit pas toute la vérité, il ne nous révèle pas toute la vérité, mais tout ce qu'il dit est la vérité. Et j'aimais beaucoup cette phrase. Dieu ne nous dit pas toute la vérité, mais tout ce qu'il dit est la vérité. Et on peut prendre exemple sur Dieu pour parler dans la vérité. Et donc l'hypocrisie ne se juge pas selon les sentiments, mais selon la volonté d'aimer. Quelqu'un qui serait hypocrite, quelqu'un serait hypocrite dans son amour fraternel si derrière des paroles gentilles et un large sourire, il n'y aurait pas de véritable volonté d'aimer, mais un sombre calcul d'intérêt ou une manipulation ou une sorte de lavement de conscience un peu facile. Les sentiments ne sont pas des critères dans l'amour. L'hypocrite n'est pas celui qui n'a pas les sentiments, mais celui qui n'aurait pas la volonté d'aimer. Aimer sans hypocrisie, c'est aimer de cœur avec cette volonté farouche. Ouais, farouche. Ou ardente d'aimer. C'est le dernier adjectif. Ardemment. Un mot qui exprime la tension, l'intensité et surtout la constance. C'est d'ailleurs traduit comme ça par d'autres versions de la Bible, la Tob et la parole vivante. Et ce mot ardent ou ardemment est utilisé pour la prière. L'Église, dans Actes 12, priait sans relâche, ardemment. Et Pierre nous appelle à nous aimer les uns les autres sans relâche, constamment, sans congé sabbatique. Un terme qui fait lui aussi appel à la volonté, car si les sentiments changent, si l'humeur fluctue, si l'autre est tantôt aimable, tantôt insupportable, seule la volonté d'aimer reste, subsiste. Un côté volontaire qui revient aussi dans l'énumération du verset 1 du chapitre 2. « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, toutes ces gentilles petites choses qui détruisent l'amour, qui sont des tueuses d'amour, rejetez-les. » Consciemment aussi, volontairement, et le verbe fait partie du vocabulaire vestimentaire qu'on entend souvent chez le médecin, déshabillez-vous. Déshabillez-vous, on est toujours... De toutes ces choses, ça c'est l'appel de Pierre. Et la dernière, et non la moindre, c'est la médisance dont Florian a parlé lors de la formation à la maturité spirituelle. On ne peut plus en entendre parler, on ne veut plus en entendre parler de la médisance. Parce que c'est elle qui enlève toute joie dans les relations, dans l'Église. On veut se déshabiller de la médisance, de la colère, de l'hypocrisie, dans nos vies, dans nos paroles, dans nos relations. Alors on pourrait se demander pourquoi la Bible insiste tant sur l'amour fraternel. Est-ce que c'est si difficile de s'aimer entre chrétiens? Normalement, ça ne devrait pas. Et à force d'insister, on finit par croire que c'était peut-être plus simple de vivre les relations avant, ou que c'est plus simple de les vivre à l'extérieur de l'Église, dans le monde, comme on dit. Alors pourquoi la Bible insiste? Pourquoi Pierre insiste sur l'amour fraternel? Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inconnu, nous dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Donc une insistance complète. Alors, pourquoi? Premier point, peut-être parce que nous sommes, certainement parce que nous ne sommes pas encore libérés de nos anciennes habitudes, de nos anciens réflexes, quand nous n'étions pas encore au Seigneur, de notre égoïsme, de notre centralisme, de tous nos mécanismes de défense toujours opérants. Nous ne sommes pas encore tout à fait dans le royaume et notre vieille vie, notre ancienne manière de vivre n'est pas encore tout à fait morte. Et on a besoin d'être stimulé, de rappeler que nous avons déjà fait un pas dans le royaume et que tout ne doit pas être comme avant. Je ne peux pas rester avec mes anciens réflexes de défense et de sécurité. Il faut pouvoir me dévêtir pour me revêtir d'habits nouveaux. Ensuite, parce qu'il en va du témoignage. Cette insistance sur l'amour fraternel est importante parce qu'il en va du témoignage chrétien. On chantait dans les années 70, et je devrais dire 70 parce que j'étais déjà en Belgique, là, une chanson qui fleure bon ces années-là. Et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Ouais, on chantait, c'est important. Le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Ça nous a rappelé de bons souvenirs, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'amour entre les gens, dans l'Église, personne ne s'intéressera au message qu'elle essaie timidement de proclamer. Entre les uns qui se chamaillent et les autres qui boudent, le message aura du mal à passer, le message d'amour de Christ. Et on comprend l'insistance de la Bible pour l'amour fraternel, parce que nous avons là un laboratoire du royaume. Enfin, si la Bible insiste tant sur l'amour fraternel et sur la volonté de l'établir, c'est peut-être aussi parce que dans une église, on trouve de tout. Et pas forcément des gens du même bord. L'Évangile touche des tas de gens différents et tout cela se retrouve dans une église, dans une sorte de melting pot. Et en plus, ce sont des gens parfois compliqués. Plus compliqués que la moyenne. Pourquoi? Parce que comme le disait Rick Warren, on a plus de chances à trouver des gens malades dans une salle d'attente du médecin qu'à l'extérieur. Et l'Évangile est pour les gens malades et compliqués et difficiles. Et nous sommes tous là, compliqués, difficiles, sensibles. Et nous formons le melting pot. Et en parlant de melting pot, et d'ailleurs, oui, on a fait une étude biblique à Oreillon là-dessus, et il y a un des participants qui a justement dit, en parlant de l'amour fraternel, qui a fait ce constat, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Bah oui. Dans un melting pot, c'est vrai que ça devient différent, ça devient compliqué. Et moi, je peux parler de cette église à Bruxelles, parce que ça fait maintenant presque 15 ans qu'on n'y est plus, donc il y a prescription, mais on avait là un Bernard Vandenbloek, en un mot, c'est ça, c'est un vrai nom belge, en trois mots, c'est un néerlandais, Vandenbloek, un flamand, je vous ai déjà parlé de lui, mais je l'aime beaucoup, un flamand royaliste, militariste, un peu coincé, compliqué, qui avait une interprétation bizarre de l'Apocalypse. Oui. Et à côté, on avait Franco Labate, un Italien, féru d'informatique, pagaius, comme on dirait dans le coin, toujours en retard, qui était un peu flou, théologiquement parlant. Ça n'avait pas trop. Et un jour, il a présidé le culte en short, avec un maillot de foot aux couleurs de l'Italie. On n'était pas loin du blasphème. Et comme disait tout à l'heure Mélanie ou Mathieu, improbable, la famille de Dieu, improbable. Qu'y a-t-il de commun entre flamands de droite et un flamand coincé et un Italien un peu trop décoincé? Et un mélange, un cocktail explosif, s'il en est potentiellement explosif, humainement explosif. Et c'est pourquoi Dieu, par sa parole, nous rappelle constamment de nous aimer les uns les autres et nous invite à nous rappeler constamment que notre unité est en lui et qu'il est notre point de communion. Et elle nous rappelle aussi à ne pas nous laisser entraîner par nos différences culturelles ou d'éducation ou de manière de vivre ou de faire l'Église, de notre appréciation musicale ou vestimentaire. Elle nous invite à mettre dans le melting pot de l'Église toute notre volonté d'aimer. Et Bernard et Franco s'entendaient bien dans l'Église. Dernier point. La parole, la semence de l'amour fraternel. Quand on lit le texte de Pierre, au verset déjà 23, on est un peu surpris de voir arriver, sans coup férir, le thème de la parole de Dieu. « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Et puis après, l'énumération des habitudes relationnelles dont il faut se déshabiller. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. » Vous avez les textes devant. Et quel est le lien entre l'amour fraternel et la parole? Eh bien, me semble-t-il, c'est celui de la semence et de la terre. Vous savez, cette semence qui est bien petite comme la graine de moutarde et qui pourtant produit un arbre magnifique, selon l'Évangile, cette semence qui mystérieusement transforme le vide ou le tohu-bohu, on va dire, de la terre en quelque chose de vivant et de beau. La semence, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle qui fait éclore en nous cette volonté de Dieu, cette volonté d'aimer, pardon. Et c'est elle aussi qui va faire grandir cet amour. Dieu est amour, nous dit Jean, et celui qui aime connaît Dieu. Connaît Dieu et apprend à la connaître. La connaissance de Dieu à travers sa parole nous conduit droit à l'amour, nous fait cheminer dans cet amour fraternel. Je me souviens, vous vous souvenez peut-être, si vous n'êtes pas trop jeune, du groupe Tears for Fears et son tube dans les années 90, Sowing the Seeds of Love. Sowing the Seeds. Semer les graines d'amour. Et cette semence, c'est véritablement la parole de Dieu. Cette lettre d'amour de Dieu pour l'humanité qui va nous apprendre, qui va nous ensemencer pour que nous puissions aimer à notre tour. Il y a des textes dans la Bible et dans les psaumes qui nous parlent de l'efficacité de la parole. Psaume 33, verset 9. « Car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Et on se souvient aussi dans la Genèse du fameux fiat lux, « Que la lumière soit et la lumière fut. » Merci. Oui, la parole de Dieu est efficace. Et elle nous dit que l'amour fraternel soit dans votre vie, et il l'est. N'est-ce pas? Pour autant qu'on veuille bien écouter cette parole, car pour la lumière du Fiat Lux, il suffisait à Dieu de mettre quelques photons ensemble, mais pour l'amour fraternel, il y a des frères et sœurs à mettre ensemble. Et ça, c'est peut-être plus compliqué. Il s'agit, pour chacun de ses frères et sœurs, d'être à l'écoute, et même plus, comme le dit le verset 2, de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole. Désirer, c'est le même verbe pour la biche, vous savez, qui soupire après des courants d'eau. Mais ici, ce sont des courants de lait, comme le bébé ouvre de grands yeux devant le biberon qu'on lui prépare. Il gigote déjà, il met sa bouche en position de succion. Je vous en conjure, mes frères et mes sœurs, par les compassions de Dieu, soyons comme des bébés pour désirer la parole. Et grandir ainsi dans l'amour fraternel, un lait qui est sans fraude, qui est pur, qui est passé par le contrôle qualité. La qualité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, la qualité de l'amour de Christ qu'il a manifesté à travers sa vie et son service pour nous. Oui, nous avons besoin de la parole comme semence, comme source pour aimer en vérité. Alors, aimons-nous ici à Pau, dans cette église, comme nous le faisons déjà certainement, mais plus encore. Aimons-nous de cet amour fraternel qui nous vient de Dieu le Père. Puisons à la source, dans sa parole, la volonté et l'énergie pour le faire avec ardeur et authenticité. À nous maintenant, pour reprendre les paroles de Tears for Fears, à nous d'être humblement, à notre tour, des semences d'amour autour de nous, de semer autour de nous des graines d'amour. Et pour joindre le geste à la parole, on va faire passer des petites graines de tournesol. Et je propose que vous en preniez trois et que vous les laissiez dans votre poche ou dans votre sac à main où que vous vouliez. Et durant cette semaine, que vous pensiez poser trois gestes de Philadelphia, trois gestes d'amour fraternel, une parole d'encouragement, une prière, une invitation, un coup de téléphone, une petite promenade, un footing, un service rendu. Là, notre créativité, notre imagination peut être mis en jeu. Et quand vous l'avez fait, vous pouvez la manger, parce qu'elles sont mangeables. Elles sont grillées et salées. Vous ne pouvez pas les manger avant. Et ne changez pas de pantalon, ou si vous changez de pantalon, ou de robe, ou de chemisier, mettez les graines. Sowing the seeds of love. Semer les graines d'amour autour de nous, entre nous, pour que le royaume de Dieu soit un jardin fleuri de son amour.